Maintenant, revenons à la température politique avec Marine Le Pen qui est entrée en campagne, c'était du côté de la Flèche, dans la Sarthe. Marine Le Pen flanquée de Jordan Bardella, puisque maintenant c'est le ticket qui va porter les couleurs du Rassemblement National. Marine Le Pen candidate pour l'Élysée, si elle est élue, ce sera Jordan Bardella du côté de l'hôtel de Matignon. Mais comment sentait Marine Le Pen ce matin en campagne?
Non, je ne joue pas à la montre. Je suis une citoyenne qui use de ses droits. Des droits que l'état de droit, que mes adversaires ont souvent à la bouche, offre à tout justiciable. Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Elle m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible.
Alors on va en discuter maintenant dans notre débat signé Durand. C'est Guillaume Durand qui est là ce soir, éditorialiste.
Bonjour les garçons.
Dimanche. Bonjour Guillaume Durand, face au député Rassemblement National de Moselle et porte-parole du Rassemblement National, Laurent Jacobelli.
Et de la campagne, bonsoir.
Et de la campagne, bonsoir, merci d'être des nôtres. C'est le bon choix pour Marine Le Pen, Guillaume ?
D'y aller ?
Oui.
À partir du moment où on lui enlevait l'inéligibilité, elle était non seulement forcée d'y aller, mais c'était pour elle quand même quelque chose qu'avec une certaine finesse, elle avait provoqué, parce qu'elle elle a dit dans toutes les interviews, moi, jamais candidate avec des bracelets. Donc les juges se sont dit, à partir du moment où elle ne veut pas y aller avec les bracelets, on n'est pas obligé d'y aller fondamentalement avec l'inéligibilité, donc elle est passée. Maintenant, la question, c'est de savoir, puisqu'elle le dit aussi, que fondamentalement, quels que soient les sondages, quels que soient les résultats, et ceux que vous avez sont très bons pour elle, tout se joue dans la campagne, et là, on va quand même rentrer dans un moment qui va être très compliqué, j'attends des explications claires de monsieur le porte-parole de cette campagne, c'est-à-dire la stabilité, le manque d'incidents, parce qu'au fond, elle est quand même l'incarnation en France depuis des années de la loi, de l'ordre et d'un certain nombre de valeurs qui lui sont d'ailleurs reprochées. Est-ce qu'elle va être capable de faire ça pendant 9 mois avec la Cour de cassation qui lui pend au-dessus de la tête? C'est quand même une question fondamentale.
C'est une question fondamentale et vous l'avez dit, nous sommes le parti de l'ordre, du droit et de la loi.
Or, vous n'êtes pas les seuls.
En tout cas,
vous êtes les seuls à affirmer ça en étant condamné. Ce qui est quand même pas pareil.
Alors, on va y aller étape par étape. Je vous sens bouillonnant. Tout d'abord, elle est une justiciable comme les autres. Elle a le droit d'aller en cour de cassation.
Oui.
Nous le défendons pour tous les citoyens. Nous le défendons bien évidemment pour notre candidate. Elle a été très claire vis-à-vis des Français. Si je suis éligible et que je n'ai pas de bracelet, j'irai. Alors je sais, ça surprend les hommes et les femmes politiques qui tiennent leur parole. Marine Le Pen tient sa parole. Marine Le Pen est innocente. Elle le clame, elle le prouvera.
D'accord.
Elle utilisera tous les moyens légaux pour le faire et c'est, je crois, pour son honneur. C'est important. Donc aujourd'hui, je sens bien que ça émoustille tout le monde, ce petit débat judiciaire. Chacun, il va de sa théorie. Aujourd'hui, non, c'est clair.
C'est un débat politique.
Elle peut faire
elle
sa campagne.
Elle-même a toujours considéré que se retrouver devant les tribunaux quand on a l'importance politique qu'elle a, c'est une affaire politique. Donc elle ne considère pas
Guillaume Durand,
ce qui est plutôt étonnant ce soir.
On peut être devant les tribunaux et être innocent. Vous savez, ça arrive.
Mais j'ai pas dit le contraire.
Ben, merci.
Et pour elle, c'est une affaire politique.
Elle est présumée innocente au moment où on se parle. Donc, vous imaginez-vous une république comme la nôtre, plutôt mature, plutôt exemplaire normalement, dire à la candidate naturelle du premier parti de France que les sondages donnent gagnante, ce ne sont que des sondages, lui dire « vous êtes présumée innocente ». Mais vous pouvez pas concourir. Personne ne le comprendrait. Vous-même d'ailleurs, écriviez des éditoriaux en disant c'est inacceptable.
Non, mais d'accord, mais vous considérez donc en fait que la Cour d'appel a tenu compte de ça et que la Cour de cassation pourrait être amenée à confirmer le jugement de la Cour d'appel parce que justement ils vont se dire au fond quel est le juge d'application des peines si elle représente 15 millions de voix qui veut dire ah maintenant il faut mettre les bracelets.
Mais évidemment, et puis surtout, la Cour d'appel a dit quelque chose de fondamental. Nous ne voulons pas faire obstruction à une candidature. Donc, clairement,
laissez le libre choix aux électeurs, c'est ce qui
est écrit.
Exactement.
Ce sont les électeurs.
Mais c'est du droit, ça.
Ce sont les électeurs qui décideront. Et je vais vous dire, Guillaume Durand, si les électeurs se disent, quand même, c'est pas bien, elle est présumée innocente, mais c'est pas bien, ils voteront pas pour elle. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, ce sont les électeurs qui voteront. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps de passer à l'étape numéro 2, passer la deuxième. Moi, je veux bien les arguties judiciaires. Je suis pas juriste, je sais pas si vous l'êtes. Mais, voilà. Moi, je sais que la Cour de cassation, elle se prononce entre 12 et
15. Oui, mais elle se prononce sur la forme, pas sur le fond, la Cour de cassation. Elle se prononce
en droit.
Et pas sur le fond du dossier.
Il y a un droit essentiel sur l'utilisation des collaborateurs parlementaires.
C'est décidé qu'il y ait un nouveau procès, voilà.
Passons à la deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, parlons du programme.
Oui, mais c'est lié.
Parlons du programme.
Non, mais
elle ira jusqu'au bout.
Non, mais d'accord, mais c'est lié. puisqu'elle veut incarner l'autorité.
Oui. Elle l'incarne, rassurez-vous.
Voilà, la fin du laxisme judiciaire, oui. L'ordre. Si elle est présidente, elle sera chef des institutions et notamment judiciaire. Oui. Elle pourra faire tout ça si elle a été condamnée.
Mais d'abord.
C'est forcément lié.
On peut faire des si. Bah, aujourd'hui, la situation.
C'est un scénario qui est sur la table. Quand même.
Oui, mais alors. Pourquoi on ne le tient pas pour Édouard Philippe? Pourquoi il n'y a pas des spéciales Edouard sur Édouard Philippe?
Édouard Philippe a dit que de toute façon,
il n'a pas encore eu. Je me permets juste de terminer la phrase. Il y a aujourd'hui une enquête sur Édouard Philippe. Et je ne préjuge pas et je ne jette pas l'éponge. Je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais avec des raisonnements et des si, on peut dire donc du coup, l'enquête va être rapidement terminée. Il va être vite jugé et peut-être qu'Édouard Philippe ne pourra pas se présenter. On peut faire ça à l'infini. Prenons les faits tels qu'ils sont aujourd'hui. On a une candidate présumée innocente et éligible qui défend un programme qu'attendent les Français. C'est ça le débat. Et
qu'est-ce qu'il a dit, Édouard Philippe, à propos de son affaire judiciaire?
Édouard Philippe, il a dit, enfin pas sur l'affaire judiciaire, ouais. Mais lors du meeting, il a dit deux choses concrètes, le reste ne l'était pas vraiment. Il a dit qu'il allait revoir les dispositions de Madame Taubira, justement pour qu'on puisse tenir compte des instructions du parquet, pour lui, ces instructions du parquet, le responsable numéro un, justement, du laxisme judiciaire, parce que les parquets laissent faire. Et la deuxième chose qu'il a déclarée et qui vous concerne aussi en matière d'immigration, c'est de dire, au fond, maintenant, l'Assemblée, tous les ans, c'est elle qui va décider quel est le quota d'immigrés qui peuvent rentrer en France à partir du moment où on a revu ou en tout cas réexaminé donc l'affaire du droit d'asile. Donc tout le monde va sur ce terrain et Madame Le Pen n'est pas la seule à aller sur ce terrain. L'avantage de Madame Le Pen,
sauf que pour beaucoup d'électeurs, c'est elle qui est les plus crédibles sur ces questions-là.
Bah, surtout que c'est une grande. Je termine. Oui. C'est une grande amatrice de variété. Elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle a un album qui intéresse les gens. Et les autres, ils ont des chansons qui intéressent les gens. Et c'est ce qui explique évidemment les sondages. Pour l'instant, il faut bien le dire qu'il y a deux superstars de la politique en France, c'est elle et Macron. Et la question qui se pose ce soir, c'est de quel côté va penser Retailleau, parce que le bloc central, là je vais faire du Jacobini, ça n'existe pas. À aucun moment Attal n'a envie de rejoindre Philippe. Philippe, il veut à peine d'Attal, et Retailleau, il pense que les deux autres vont se casser la figure, parce que de toute façon ils ont travaillé avec Macron. Donc la question, c'est plutôt de savoir ce que vous allez faire pour essayer d'arracher,
récupérer Retailleau,
le Vendéen Retailleau.
On a posé la question à Mario Maréchal il y a quelques minutes.
Mais parce qu'il faut faire 50 plus ça pour
vous
gagner.
Vous avez tout à fait raison.
C'est pour ça.
On a besoin de ses électeurs, en tout cas. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, Monsieur Durand, comme souvent. Vous avez cité Édouard Philippe, mais Édouard Philippe a été 3 ans au gouvernement. Ça a été le premier ministre d'Emmanuel Macron. Il a tout raté sur la sécurité, sur l'immigration, sur la dette, sur l'ensemble des questions qu'il a eu à traiter. Et aujourd'hui, il arrive en sauveur en disant les problèmes que j'ai créés ou que je n'ai pas su régler.
Avant le Covid, c'est pas vrai.
Je vais les créer.
Il avait des bons résultats avant le Covid.
Oui, mais excusez-moi, on juge un homme à la fin de son action. Donc, c'est un peu simple. Mais là où vous avez raison, c'est que les électeurs de droite aujourd'hui errent comme des âmes en peine. Ils veulent plus de sécurité, moins d'immigration et la bonne tenue des comptes de la France. Et ils se retrouvent avec un Bruno Retailleau qui a été un des premiers complices à aller à la soupe quand les LR se sont vendus pour aller travailler avec Emmanuel Macron. Pire, c'est l'homme de l'échec face à l'Algérie. Donc Bruno Retailleau ne représente personne si ce n'est lui-même. D'ailleurs, il n'est même pas capable de maintenir l'ordre dans son parti. Monsieur Wauquiez lui est déjà parti avec un bagage chez Édouard Philippe.
Oui, mais Wauquiez,
un pari avec vous.
Prenez un pari, parce que ça nous intéresse tous les trois.
On prend un pari, allez, avec tous les trois. Janvier, février, au plus tard, Bruno Retailleau fait allégeance à Édouard Philippe.
Pourquoi?
Parce qu'il n'aura pas les troupes, et parce qu'il n'aura pas les sondages. Mais parce que Bruno Retailleau est trop enclin à aller à la soupe avec les macronistes. Il croit ce vieux système, il en est l'incarnation. D'accord. C'est la droite qui trahit. Or, les électeurs...
Et donc vous n'arrivez pas à le convaincre non plus.
Bah, excusez-moi, on a Éric Ciotti qui nous a rejoint. Beaucoup de maires aujourd'hui, dans les agglomérations, votent pour nos maires pour qu'ils soient présidents d'agglomération.
Est-ce qu'un François-Xavier Bellamy pourrait vous rejoindre, par exemple?
Ce serait naturel. Je ne sais pas s'il veut le faire. Mais quand on entend parler, quand on voit qu'au Parlement européen, ils votent avec nous, car on arrive au Parlement européen à faire des alliances avec la droite quand il s'agit d'éléments importants et régaliens. Donc après avoir, est-ce qu'il aura le courage? Je ne le connais pas personnellement, je n'en sais rien, mais nous devons rassembler, voulons rassembler.
Pardon, mais juste, vous aviez un candidat qui était bien placé, Jordan Bardella, et là vous avez une candidate qui va se présenter pour la quatrième fois et qui en plus peut être condamnée définitivement. Donc est-ce que c'est pas le mauvais cheval pardon pour l'expression.
Oui.
C'est juste parce qu'on est sur une course présidentielle. Est-ce que c'est pas la mauvaise candidate finalement, Marine Le Pen, pour gagner, ou non, c'est la meilleure pour perdre?
Pardonnez-moi, mais on est dans la 5e République, la 5e République est fabriquée de 8 personnages qui ont tous été à des stades ou les autres des stars. Et pour l'instant, Marine Le Pen est la star de la vie politique française, telle qu'Emmanuel Macron. Et il y en a pas d'autres. Jordan Bardella est quelqu'un.
Il y a peut-être Jean-Luc Mélenchon aussi.
Non. Jean-Luc Mélenchon, mais si ma mémoire est bonne, il n'a pas été président de la République. Il est donc le principal opposant de Marine Le Pen aujourd'hui. Et là où je voudrais revenir à ce que disait tout à l'heure M. Giacobelli, qui me paraît alors là totalement surréaliste, prenez ça avec beaucoup de gentillesse, c'est quand vous parlez du rétablissement des comptes publics. Enfin, je veux dire, pendant des années, le Rassemblement national a raconté sur l'Europe, sur la dette, sur tous ces sujets, n'importe quoi. Et même le pass sanitaire pendant le Covid, vous n'avez pas voulu en entendre parler. Alors je suis certain, comme vous m'avez l'air brillant, malin et intelligent...
Oh là là, c'est mauvais ça, quand on flatte en général, c'est que le coup arrive.
Enfin, c'est quand même un truc énorme de ne pas avoir voulu du pass. C'est-à-dire, Philippe Aguillon, qui est prix Nobel d'économie, vous l'a reproché ouvertement sur une matinale de France Inter. Ils n'ont même pas été foutus de voter le pass sanitaire.
Il y a plein de questions dans votre diatribe. La première, c'est les équilibres budgétaires.
Ça, c'est un procès en crédibilité.
Oui, mais c'est très simple. Nous, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un budget qui est voté, on fait un contre-budget chiffré pour bien montrer là où nous voulons aller. Aujourd'hui, on peut pas continuer avec la dette à l'infini, l'augmentation des impôts. On est quand même un pays où la pression fiscale...
Non, mais vous la remboursez ou vous la balancez par la fenêtre?
Mais bien sûr qu'on la rembourse. C'est une évidence, on la rembourse. Et pour ça, il faut bien gérer les finances publiques, il faut changer les priorités. C'est vrai que l'immigration, pour nous, le coût des migrants, eh bien, sera en bas de la liste. Nous ferons des économies. Le coût de l'Union européenne sera en bas de la liste. Et je vais vous dire, on va faire un grand audit pour chaque opération, chaque ministère, combien ça coûte, combien ça rapporte.
Hollande a fait la même chose avec Sarkozy.
Mais nous, on ira au bout.
Il a augmenté les impôts massivement.
On ira au bout. Je vais vous dire, on a une règle d'or. Une règle d'or. Pas un centime ne sera pris dans la poche des Français tant que l'État n'aura pas été dégraissé.
Pardonnez-moi. Non, mais vous avez employé un mot important. La règle d'or. Il ne s'agit pas de dire, les Français ne paieront plus un impôt de plus. Est-ce que vous allez instaurer la règle d'or?
Mais, une fois encore, il faut limiter. Pourquoi ventilez-vous? Tout va bien, on est bien rafraîchis.
C'est important. Est-ce que vous allez décider, ça a été proposé par des candidats, que par exemple, on va mettre dans la Constitution, c'est terminé maintenant, les budgets qui depuis 45 ans sont tous en déficit? Oui ou non?
Il y a tout. Je vais vous répondre. Mais oui ou non, vous comprenez que c'est un peu binaire et vous n'êtes pas quelqu'un...
Là, si, c'est oui ou non.
Mais... On peut l'inscrire dans la Constitution et pas le respecter. Aujourd'hui, c'est dans les règles européennes et ce n'est pas respecté par la France. Donc nous, ce que nous voulons, c'est évidemment limiter le déficit du budget national et pour ça, prendre les mesures qu'il faut, les mesures d'économie sur un État devenu obèse, les mesures d'économie sur une immigration qui coûte des dizaines de milliards par an, des mesures d'économie sur l'assistanat, je dis pas l'aide sociale, mais l'assistanat, c'est-à-dire ceux qui abusent du système, et le coût de l'Union européenne, ainsi que, par exemple, le coût de ce millefeuille territorial qui coûte une fortune. Oui. Ça a augmenté de 25% les coûts en personnel dans certaines régions comme la
mienne. Avec une archive, Guillaume Durand, vous avez reçu il y a quelques années... Marine Le Pen. Ah. Vous avez reçu plusieurs fois.
J'ai même écrit un papier sur elle.
Mais vous avez reçu Marine Le Pen. Et on a une petite archive, justement, concernant le droit, la justice, les condamnations.
Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Mmh. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah, bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà.
Elle est terrible, cette archive. Inéligibilité à vie pour ceux qui ont été condamnés pour détournement de fonds publics.
Elle est...
Même s'il y a pourvoi en cassation en ce moment.
Oui,
d'accord.
Mais c'est un scénario à étudier. Donc, est-ce que finalement...
Moi, je veux bien tout ce que vous voulez.
Ouais.
au moment où nous nous parlons, Marine Le Pen est présumée innocente.
Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen de 2013 ?
Mais quand il y a, par exemple, un enrichissement personnel, évidemment,
non, on peut elle parlait de détournement de fonds publics. C'est exactement sur quoi elle a été condamnée.
Vous êtes en train de caricaturer les choses.
Excusez-moi. On vient de réécouter ensemble, vous étiez très attentif.
Oui, c'est vrai, je ne connaissais pas cette archive.
Ah ben voilà.
Voyez, on découvre des choses.
Pas de bol.
Mais si, mais pas de problème. Vous êtes en train de nous dire, elle est peut-être coupable. Bon, ok. Elle est condamnée. Non, aujourd'hui, elle ne l'est pas de fait. Tous ceux qui sont condamnés pourront plus se présenter. Donc, elle ne peut plus se présenter. Excusez-moi, vous avez fait quand même un certain nombre de
raccourcis. C'est ce qu'elle avait théorisé il y a 13 ans.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, comme j'imagine vous tous autour de cette table, elle est innocente et présumée comme telle. Oui. Donc, je ne vois pas le hiatus. Excusez-moi.
Non, mais j'ai une dernière question.
Et je ne vais pas rentrer dans votre piège.
J'ai une dernière question que je voudrais vous poser. On va admettre tout ça, c'est que on a quand même, et nos deux camarades le rappellent depuis le début de l'après-midi, cette décision de la Cour de cassation. Vous imaginez, moi, je n'ai jamais vu ça en France depuis le début de la Ve République, que la Cour de cassation, tout d'un coup, mette par terre l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait exactement ?
Eh bien, moi, je ne crois pas à ces intentions. Alors, j'ai pas à commenter les communiqués de presse de la Cour de cassation.
Mais attendez, vous êtes obligé.
Mais je ne le crois pas parce que la Cour de cassation avait dit la fois dernière qu'elle jugerait dès janvier, en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen, pour ne pas entraver le processus démocratique.
Vous pensez qu'elle vient de redire qu'elle se prononcera au plus tard début avril.
Et donc, si elle se prononçait dans des délais exceptionnels, il y aurait un risque d'entraver le bon processus démocratique, ce qui est l'inverse de ce qu'elle a clamé il y a quelques mois. Donc, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'elle le fera.
Donc, elle va aller, d'après vous, dans le sens de la Cour d'appel.
Je crois qu'elle prendra le temps qu'il faut pour étudier et qu'il n'y aura pas de procédure.
Enfin, la croyance, ça ne suffit pas quand même pour préparer une campagne.
Merci, monsieur Jacobelli.
Je me base sur ce qu'ils ont déclaré précédemment.